Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage avec ma complice Eva Rock. On est ravis de vous accueillir comme chaque après-midi entre 16h et 18h. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est une émission un peu particulière aujourd'hui. D'une part, évidemment, parce que nous sommes un jour férié et que nous sommes là sans être payés double.
Ah bon ? J'étais pas au courant, moi.
Et si !
Ah,
et d'autre part, parce que nous célébrons aujourd'hui avec son fils et à l'occasion de la sortie d'un recueil de ses meilleures citations, la mémoire d'un homme qui a marqué l'histoire de l'humour et l'histoire d'Europe 1.
Ah, Dick Rivers !
Non, pas lui, l'autre !
Eh ben bonjour, alors voilà, donc aujourd'hui on est mardi. C'est le papa qui est allongé sur le lit et puis il dit à son fils « Va dire à maman que le mât du chapiteau est en place ». Alors l'autre, il arrive dans la cuisine, il dit ça à sa mère, et sa mère, elle dit, ben va dire à ton père qu'on fera pas le chapiteau parce que le petit clown saigne du nez.
À cette heure-ci, de 1985 à 86, Coluche présenté sur Europe 1, il y en aura pour tout le monde. 35 ans plus tard, on parle toujours de lui comme une référence même absolue. Son fils, le comédien Marius Colucci, est avec nous cet après-midi. Bonjour Marius.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes comédien. Les Français vous connaissent notamment pour votre rôle dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et vous venez nous présenter Coluche, rigolez pas. C'est avec votre pognon, un recueil des citations de votre père qui sort aux éditions du Cherche Midi. Déjà, est-ce que c'est émouvant pour vous d'être dans le studio qui porte le nom de votre père ? Vous êtes dans le studio Coluche aujourd'hui.
Ah, c'est ça, parce que sur l'écran, il y avait marqué siège Coluche. Et je me disais, mais ils sont fous, ils m'ont posé le siège Coluche. Ils sont vraiment. Il faut arrêter hein, sur Europe avec Coluche. C'est bien, hein, on est très contents. Mais... écoutez, non, c'est sympa, ouais, c'est vraiment bien. Et puis, effectivement, il est resté plusieurs années à être très, très écouté. À l'antenne, donc c'est bien qu'il y ait une mémoire comme ça ici de
vous,
Coluche.
Vous aviez quoi, 8-10 ans quand il était sur Europe 1 ? Vous l'accompagniez parfois dans les studios à l'époque ?
Non,
pas du tout.
Pas du tout.
Jamais, il vous emmenait pas, c'était vraiment
non,
une...
Non, lui il avait sa bande à lui, hein. Ah, il y avait Jean-Jean qui était là pour rire, il avait toute sa bande, c'était pas vraiment des chroniqueurs à l'époque, hein. C'était pas développé comme aujourd'hui maintenant, hein. C'était un peu pionnier, quoi, on va dire. Mais non, moi j'ai jamais été à la radio particulièrement... je me rappelle qu'on allait bouffer à la coupole après des steak frites, mais c'est mon seul souvenir de la radio, pardon.
Je suis la manivelle des pauvres, je leur remonte le moral. Coluche avait comme ça des formules exceptionnelles qu'on retrouve dans ce livre, on va en parler. Mais d'abord, je vous présente ceux qui sont censés être, du moins c'est ce qu'on m'avait vendu, les meilleurs journalistes de la rédaction d'Europe 1. Des journalistes que j'ai décidé de mettre en compétition pour ajouter un peu de piment à leur vie et à leur carrière, qui du coup peuvent s'interrompre brutalement au détour d'un mauvais papier, d'une mauvaise note. Car oui, ici désormais, Marius Colucci, on note les journalistes. Vous allez voir, ça les bonifie. À ma gauche, justement,
il y a une appli pour les noter.
Évidemment, vous aurez l'appli Europe 1. Ah, ça serait bon, ça. Vous êtes un génie, c'est ça qui manque à l'émission.
Comme ça que vous allez tous vous faire mourir,
c'est possible, mais c'est quand même néanmoins une bonne idée. Non, mais moi je m'excuse, je suis hors compétition, c'est ça qui est bien.
Moi je suis hors compétition aussi.
Oui, vous aussi, Eva, vous avez raison. À ma gauche, justement, une journaliste d'investigation de haut vol. Spécialiste environnement d'Europe 1, elle mène des enquêtes rigoureuses sur l'invité en amont de chaque émission afin de pouvoir intervenir à bon escient, comme jeudi dernier face à Nathalie Dessay.
Et il paraît que vous aimez bien avoir vu sur la nature et vous laisser réveiller par le soleil aussi.
Ah bon ?
Bonjour Anne Legal.
Bonjour à tous.
Au plus loin dans l'investigation.
C'est méchant
avec vous.
Parce qu'elle a dit oui après Nathalie Dessay.
Oui, mais elle a hésité longtemps. Coluche aurait adoré votre chronique aujourd'hui, Anne, puisque vous nous parlez des nouvelles solutions contre le gaspillage alimentaire.
Voilà, on va voir que la lutte contre le gaspillage alimentaire peut aussi passer par notre smartphone. Je vais vous présenter 4-5 applications.
Il y a une appli.
Il y a des applis aussi pour ça, absolument.
À ses côtés, Marius Colucci, un garçon qui, par conformisme et frilosité, s'est égaré sur les chemins du journalisme, alors que d'évidence, sa prédisposition comique le destinait à la scène. Coluche l'aurait certainement adoubé comme son successeur. On se souvient de son show génial devant Bruno Salomon.
Moi, je peux imiter Bruno Salomon, si vous voulez.
Ah ouais, vas-y.
C'était le cochon d'Inde.
Ah ouais.
Ah, c'est bon de rire. Bonjour Nicolas Caro.
En vrai, il a beaucoup ri.
Non, ça vous pouvez pas le dire. Il n'y a pas de montage dans ce qu'on vient d'entendre. Vous êtes le monsieur libre d'Europe 1. Et aujourd'hui, on va encore sacrément se fondre la poire, puisque vous nous parlez de ce qui se fait finalement assez rare, les auteurs drôles.
Ben oui, il y a des passages de grands romans qui sont drôles, mais il y a aussi des romans, je vais vous parler de 3 écrivains vraiment très drôles.
Français ou...
Les 2, américains, anglais et français.
Merci Nicolas. Voici pour le programme L'équipe est sauvage. C'est parti.
L'équipe est sauvage.
C'est donc Marius Colucci qui nous accompagne cet après-midi à l'occasion de la sortie d'un livre intitulé Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon. Est-ce que Marius, à chaque fois que quelque chose sort portant le nom de Coluche, vous êtes consulter, c'est vous qui gérez l'héritage.
C'est... Normalement, oui, mais bon, ça c'est pas toujours. Là, le problème, c'est que Coluche aujourd'hui, c'est tellement répandu en France, c'est une institution que ça peut nous échapper. Le film, par exemple, on n'était pas très pour. Hein, le film sur Coluche, simplement, si on avait voulu dire non, on le fait pas. Il faisait un film sur un humoriste français qui s'appelait Paluche, et puis on pouvait rien dire.
Ah, le film, vous avez pas plu. Le film d'Antoine Decaune, hein, l'histoire d'un mec, c'est ça.
Oui. Ah, bah, c'est quand même la première fois qu'on fait un drame sur un comique, quand même. C'est-à-dire que c'est hors sujet, quoi.
Vous trouvez le film pas drôle, en fait. Ça reflétait pas
C'est un film, oui, déprimant. Un film. En fait, ils ont voulu faire comme La Môme. Comme il y a La Môme qui était sortie juste avant, mais qui, Edith Piaf, a eu une vie qui est assez tragique, avec une histoire d'amour tragique. Ils se sont dit, bah voilà, on va faire pareil avec Coluche.
Ils ont mis du pathos là où il y en avait
exactement.
Pas, en fait.
Donc, c'est comme disait mon frère, c'est comme si on faisait une comédie musicale sur le suicide de Bérégovoy, quoi.
C'est pas mal, ça. Coluche aurait pu la faire lui-même, celle-ci. C'était bon. Coluche est mort il y a plus de 30 ans. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il reste si présent dans l'esprit et le cœur des Français? Quand on pense surtout aujourd'hui à la concurrence humoristique, l'offre pléthorique d'humoristes, pourquoi Coluche reste une référence si importante?
Il était visionnaire un peu. Visionnaire, ça fait prophète, mais voilà, il avait un œil. Et puis, il venait de la rue. Il venait de la rue comme la plupart du public. Et il disait de façon intelligente tout ce que eux voudraient pouvoir dire, alors que ce soit d'ailleurs pour la politique, pour tout et n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup retenu la politique parce que Coluche, c'était le premier à parler de politique en France. Avant, ça se faisait pas. Ça se faisait surtout pas d'ailleurs. Je crois que le sketch le plus politique dont je me souvienne d'avant Coluche, c'est Fernand Reynaud qui fait « J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français
». Mais que... ça citait pas nommément des hommes politiques et c'était pas dans l'actu politique.
Voilà, c'était plus sociétal que politique, on va dire.
La recette de Coluche est peut-être dans une des citations de ce livre, quand il dit « Le plus dur dans le One Man Show, c'est de ne pas parler de soi. Ce qui est intéressant, c'est la psychologie du public, pas la sienne ». Il se mettait toujours à la portée du public. C'est l'inverse du stand-up. On raconte sa vie.
Malheureusement, aujourd'hui, les stand-up, c'est un peu ça. C'est qu'ils sont très forts sur la forme. Mais de quoi ça parlait
De lui.
Il n'y a aucun fond aujourd'hui. Ouais. Alors que Coluche, c'était ça. C'est que des fois, la forme passait pas bien. D'ailleurs, au début, on l'appelait quand même le roi des vulgaires. Ça, c'était... Mais finalement, ce qu'il racontait derrière, c'était intelligent. Et c'est ça qui reste encore aujourd'hui. Quoi.
Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon. Vient de sortir Marius Colucci, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, Coluche disait « Quand je me suis présenté à la présidentielle, j'ai fait peur aux hommes politiques. Quand j'ai fait les restos, je leur ai fait honte. 35 ans plus tard, le combat des restos continue et de nouvelles solutions contre le gaspillage alimentaire arrivent. » Anne Le Gall, la bonne conscience d'Europe 1, vous explique. Au fait, Anne, un mot peut-être pour Coluche qui a été pour vous une source d'inspiration.
Bisous, bisous.
À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue sous l'œil de celui qui est un peu chez lui dans ce studio, qui porte le nom de son père, studio Coluche, Marius Colucci. Ensemble, on feuillette un recueil des meilleures citations de votre papa. Aujourd'hui, on dirait ses meilleures punchlines. Mais l'heure est venue d'écouter le travail de notre première journaliste en compétition aujourd'hui. Coluche disait « La pire injustice pour un artiste, c'est d'avoir plus de talent que le public ». Avec Anne Le Gall, c'est l'injustice que nous vivons au quotidien. Pourtant, notre duo comique est bien rodé. Elle raconte des trucs chelous et moi je fais « Ah bon ?» pour instiller du suspense dans sa chronique. Et alors elle fait « Mais si !» dans un balai réglé au millimètre.
La biomasse des vers de terre, ça équivaut au poids de 2 à 6 vaches.
Mais non.
Et si. Il y a aussi 20 fois plus de poids de vers de terre dans le monde que de poids d'humains.
Mais non.
Et si.
Bref, ça fonctionne comme ça assez bien. Et un jour, on rencontrera peut-être notre public. Qui sait ? Anne Le Gall.
On y croit.
Il y a 35 ans, Coluche lançait sur Europe 1 l'appel des Restos du Cœur. Aujourd'hui, le combat continue et il se diversifie. Vous nous parlez aujourd'hui des nouvelles applis anti-gaspillage.
Voilà, les Restos du Cœur sont toujours là pour servir des repas aux plus démunis. Et dans ce contexte de besoins alimentaires, la notion de gaspillage reste toujours aussi aberrante. C'est une réalité. Chaque Français jette en moyenne 100 euros d'aliments consommables chaque année. Alors bien sûr, c'est une moyenne qui inclut toute la chaîne de distribution. Ça va des invendus dans les magasins, à notre frigo, en passant par les restaurants, les cantines. Et face à cela, notre portable peut nous aider à gaspiller moins sans se prendre la tête. Et pour ça, il y a deux familles d'applications. D'abord, celle qui nous aide à repérer des magasins qui pratiquent des prix cassés sur des produits alimentaires qui vont être jetés. S'ils ne sont pas vendus, ils finiront à la poubelle. Dans cette catégorie, mon chouchou, c'est Too Good To Go. Alors, ça veut dire trop bon pour être jeté. Ouais. Et en fait, c'est une application qui géolocalise autour de vous des magasins, des traiteurs, des boulangeries qui vont jeter des produits.
Mais il faut qu'ils soient tous participants, si il faut qu'ils soient tous affiliés.
Ils sont inscrits, voilà. Ils se sont abonnés au service. Donc, j'ai regardé près de chez moi ce que je pouvais trouver. Nous sommes le 11 novembre et pourtant, je peux trouver dans la soirée, si je veux, des sushis à 7 euros, un panier de viennoiserie à 4 euros au lieu de 12 dans la boulangerie du coin, un panier de fruits et légumes dans la supérette de quartier qui sera là encore à 4 euros. Toutes ces informations donc, sont disponibles en temps réel. Vous pouvez réserver le panier à l'avance et ça évite effectivement que tous ces aliments partent à la poubelle. C'est très malin. Dans le même esprit, vous avez l'application Optimiam, même principe de géolocalisation. Le réseau est juste un petit peu moins étendu et les deux applications donc, peuvent être complémentaires selon l'endroit où on habite. C'est vraiment très, très, très malin.
Alors ça, c'est la première famille d'applications anti-gaspillage. Voilà. Il y a un deuxième type d'application.
Oui, tout ce qui permet de mieux gérer son frigo.
Oula,
parce que
ça,
voilà,
c'est pour
ça
moi,
nous est
ça.
Tous arrivé de jeter des tranches de jambon, des yaourts périmés parce qu'on n'a pas vu arriver la date. Donc pour éviter ça, vous pouvez télécharger des applications comme à consommer entre guillemets, ou date limite, entre guillemets, c'est une deuxième application. Là, c'est simple, vous scannez les codes barres des aliments une fois que vous avez fait vos courses, et avant de les ranger dans le placard, dans le frigo, et ben vous passez un petit coup de scanner, et ensuite vous recevrez des alertes sur votre téléphone quand la date de péremption arrivera. C'est vraiment pour les étudiants.
Je sens que ça va me stresser.
Ceux qui ont un gros stock, ça peut servir. Et il y a une autre application qui est géniale. Ça s'appelle Frigo Magique. Magique IC à la fin. Alors là, c'est pour cuisiner les restes du frigo.
Ah oui,
par exemple,
ça, ouais.
Vous ne savez pas quoi faire du petit bout de fromage, du reste de légumes qui
vous
y a dans
Olivier
votre frigo.
Vous appelez Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique.
C'est une solution.
Moi, c'est ce que je fais. C'est mon appli personnel.
Ah, vous avez de la chance. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas Olivier, il y a Frigo Magique. Donc, vous rentrez les aliments qui vous restent dans le frigo et il y a un moteur de recherche qui combine à travers 5000 recettes. Il y a un moteur de recherche qui va vous trouver la recette adaptée à vos restes en fonction du nombre de convives. Le tout faisable en 20 minutes. Donc, avec le bout de fromage, les œufs, les légumes, vous aurez un exemple de gratin, voilà, une tortilla, une omelette. Il y a 5000 recettes possibles.
Ah, c'est pas mal
et
quand
tout
même.
Ça, donc, c'est gratuit. Toutes les applications que je vous ai citées sont gratuites. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et ça permet d'éviter que des tas d'aliments partent à la poubelle.
C'est gagnant-gagnant, comme vous dites.
Oui.
Anne Le Gall, Marius Colucci, j'imagine que vous êtes toujours engagé pour les Restos du Cœur et que ce genre d'initiative vous intéresse beaucoup.
Oui, alors c'est très bien. Ça n'a rien à voir, évidemment.
Ah, hein.
C'est très gentil, c'est très sympa.
Ouais, ouais.
Et effectivement, il y a plein d'associations et d'initiatives qui sont faites localement pour aider les démunis, et ça c'est super. Les Restos du Cœur, bah, après tout, on n'est jamais qu'une emblème. Hein. Alors, c'est une association comme une autre, hein. Il y en a d'autres, il y en avait avant d'ailleurs. Hein. Le Secours Populaire, ils sont là depuis longtemps. Il y a l'Armée du Salut, il y en a plein, quoi, je veux dire. Et il y en a plein des nouvelles aussi. Alors maintenant, effectivement, avec les smartphones, il y a une nouvelle génération d'associations comme ça qui se développent. Bah, c'est bien, hein, de toute manière, un petit peu plus de solidarité, ça ne nous fera pas,
ça fait
mal,
pas de mal.
Hein.
Il y a une appli smartphone, les Restos du Cœur, ou pas?
Je ne suis même pas sûr, tiens.
Ça pourrait servir?
Mmh,
pour donner, vrai. Pour les dons, pour coordonner les dons.
Effectivement.
Je lance l'idée. Merci Anne Le Gall. On offre un dernier sketch à nos fans. Allez.
Dans Mammifère, il y a Mamelle.
Non.
Et si.
J'ai dit ça sur l'Olympiade en 2020, cette affaire. En attendant, on se replonge dans les meilleures citations de Coluche avec Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon au cherche midi. Marius Colucci passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, échauffez vos zygomatiques, préparez-vous à prendre une claque humoristique comme on n'en a pas vu beaucoup depuis Coluche. Nicolas Caro arrive.
Si vous saviez comme je suis confondu. Confondu ? Oh, c'est rien, ça doit être la chaleur.
Top à la déconne, en ce jour férié, l'expert livre d'Europe 1 lâche les chevaux. Il nous parle de ces romans assez rares qui nous tirent des larmes de rire. Juste après Imani, Little Sister sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour aider le DRH d'Europe 1 à repérer les journalistes qui bossent et ceux qui tirent au flanc. 2 heures d'un véritable pugilat au service de votre culture G. 2 heures également pour apprendre à mieux connaître un invité. Bon, vendredi, d'aucuns me diront que d'évidence, je connaissais déjà assez bien l'invité Philippe Geluck. Je m'inscris en faux, hein, avec Philoche, enfin avec Monsieur Geluck. On ne se connaît pas particulièrement et je ne vois vraiment pas ce qui, dans l'émission de vendredi, vous permet de parler de connivence. Attention, Poupou.
T'inquiète, Kiki.
Oui, ouais. Aujourd'hui, c'est le comédien Marius Colucci qui nous accompagne. Je ne le connais pas. Marius, vous nous présentez un livre intitulé Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon aux éditions du Cherche Midi. Est-ce que vous-même, en revisitant ces citations, vous avez découvert des punchlines, comme on dit aujourd'hui, que vous ne connaissiez pas?
Oui, on en retrouve. C'est pour ça que c'est bien de temps en temps de refaire un petit almanach, voilà, parce que comme ça on peut refaire le point. Et puis ça permet notamment de vérifier qu'est-ce qui est du Coluche et qu'est-ce qui n'en est pas. Ah, parce que sur les réseaux sociaux,
il y a des citations,
beaucoup de citations, alors, ou bien de Coluche qui sont prêtées à Churchill, ou bien l'inverse, de Churchill qui sont prêtées à Coluche. Il y en a qui se sont fait épingler,
qui
se sont fait avoir.
Ah ben moi j'ai dû me faire avoir parce que souvent je prends des petites citations comme ça et souvent il y a Coluche et souvent il y a Churchill, donc bon. Alors, c'est l'un ou l'autre finalement, c'est bon. Mais oui, à chaque fois, je dois me tromper. Est-ce que quand on est le fils de Coluche, on est forcément le fan de Coluche? Je veux dire, j'imagine que globalement vous êtes fan de Coluche, mais est-ce qu'à un moment de votre vie...
T'aimes ton père, toi, comment tu dis?
Oui, mais non, mais fan de l'artiste, est-ce qu'à un moment de votre vie, par exemple à la fin de l'adolescence, on aime moins son père à la fin de l'adolescence, est-ce qu'à un moment vous êtes dit, ah, oh, Coluche finalement, je parlais d'autres humoristes?
C'est vrai qu'il y avait un truc, c'était rigolo d'ailleurs, parce qu'on connaissait un petit peu, quand on était ado, les filles de Pierre Desproges. Ouais. Et les filles de Pierre Desproges étaient beaucoup plus fans de Coluche que de Desproges, et vice versa.
Et vice versa, d'accord. Voilà.
Il y avait baston, c'est ça, vous faisiez des battles.
Bah, c'est ça, ouais. Non, on disait, non, c'est vachement mieux écrit. Oui, mais non, c'est beaucoup plus pertinent. Enfin voilà.
Coluche avait poussé très loin la provoque en se portant candidat à l'élection présidentielle de 80. On s'en souvient, il avait récolté plus de 16% des intentions de vote. Il commençait vraiment à faire peur aux candidats en lice. Pourquoi il s'est
à faire chier surtout.
Mais pourquoi il s'est retiré finalement?
Parce que ça marchait pas. Parce que en fait, lui, il voulait y aller pour pas être censuré. Parce qu'il se faisait censurer, comme on l'appelait Monsieur Vulgaire quand il allait à la radio, on disait non, on peut pas dire ça, machin. Hein. Alors qu'il entendait les hommes politiques dire des inepties, des mensonges longs comme le bras, et personne ne leur disait rien. Donc il s'est dit, je vais me présenter comme ça, je pourrais pas être censuré. Et en fait, ça a été quatre fois pire. Parce que tous les partis ont essayé de le censurer d'une manière très bien. C'est-à-dire que la gauche lui envoyait un émissaire pour dire « faites attention à la droite ». Et la droite envoyait un émissaire en disant « faites gaffe à la gauche ».
Eva ?
Quand on lit le recueil, il y a quand même trois professions qu'il ne faut pas, avoir, avoir exécutées.
Journaliste,
homme politique et flic. Parce que c'est vraiment les trois catégories professionnelles qui prennent le plus cher avec votre père.
Mais à raison à la fois.
Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Mais après, ce qui est plus malin, c'est qu'on peut enlever les noms des politiques qu'il évoque, je pense à Le Canuet par exemple, mais après, sur le fond du problème, tout est d'une modernité absolue. Est-ce que vous avez eu cette impression en relisant
bien sûr.
Recueil
Oui, il y a énormément de trucs qui sont encore extrêmement actuels. En fait, la société, elle ne change pas tant que ça. Hein. D'abord, Coluche, il était assez pertinent, donc il voyait des trucs qui étaient plus des trucs de fond que des trucs de surface. Et puis, aujourd'hui, on est un peu les mêmes qu'il y a 40 ans, même si ça fait chier tout le monde. Ouais. Et on n'a pas tellement évolué, et on se fait toujours avoir par les politiques, et on veut toujours que ce soit eux la cause de tous nos problèmes. On est dans les mêmes tracas. On est plus virulent maintenant quand on fait des manifs, c'est tout. Quoi.
Ça, c'est très actuel aussi. Comme d'habitude, les hommes politiques ne disent rien et la presse fait plusieurs jours avec.
Ah, voilà. C'est ça.
C'est tellement vrai.
C'est exactement
c'est vrai
ça.
Que ce qui ressort de ce livre, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, l'intelligence derrière l'humour. C'est-à-dire que ce n'est pas l'humour de la vanne d'abord, c'est on a quelque chose à dire et on le tourne de manière qu'il soit drôle. Et c'est ça qui manque aujourd'hui peut-être.
Coluche, c'est ça qui était surtout frappant. C'est pas tellement ce qu'il disait, c'est la façon de le dire. Quoi. En fait, il pouvait dire absolument n'importe quoi. La façon qu'il avait de le dire était drôle et sympathique et intelligente, pertinente.
On redécouvre cet humour corrosif de votre père dans un livre. Marius Colucci est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, beaucoup de romans nous tirent des larmes, mais rarement de rire. Quels sont les livres les plus drôles du moment et même de tous les temps? Nicolas Carreau, notre expert littérature, nous offre sa sélection. Et Nicolas Carreau, vous pouvez lui faire confiance, il a une carte de presse.
Oh, c'est une vraie?
Oh oui, il vous montrera si vous êtes sage. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue une émission à la croisée des chemins du sérieux journalistique et de la déglingue potage, quelque part entre apostrophe et les Stéphanois à Cancun. Ça n'existe pas encore, mais croyez-moi, à l'allure où vont les choses, ça va pas tarder à débarquer sur Énergie 12. Cet après-midi, on célèbre la mémoire dans son studio, la mémoire d'un artiste qui a marqué la France bien au-delà de l'humour, Coluche, avec son fils Marius Colucci qui est avec nous. Parmi les principaux legs de votre père, le 20 octobre 88 est voté la loi Coluche. Ce texte fait suite à la création des Restos du Cœur le 26 septembre 85 sur Europe 1. Et il raconte que pour réussir le coup des Restos du Cœur, il a fallu être assez malin. Il dit « J'ai fait les choses dans mon coin. La notion que je tirais de cette affaire-là, c'est que pour réussir à faire du bien, déjà, il a fallu baiser tout le monde. » C'est-à-dire qu'il l'a lancé un peu en catimini. Il n'a pas du tout prévenu le patron d'Europe 1 de l'époque.
Personne. Nous-mêmes, on ne savait pas.
C'était vraiment comme ça quelque chose qu'il a mené en secret. C'était la seule manière d'arriver à lancer le truc. Après, ils ont été obligés de le suivre parce qu'Europe 1 recevait du courrier. Il a fallu faire une journée.
C'est ça, oui. Il savait très bien ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde à cette époque-là. Il avait bien compris les médias. Et c'est vrai que les médias, on ne savait pas trop gérer encore à l'époque. Les hommes politiques, ils n'avaient pas des conseillers, des formations, des trucs. D'ailleurs, il y en avait des nuls. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la politique de l'époque, mais ce n'était pas gagné quand même. Et il y en a un qui avait une perruque, par exemple. Hein, je sais pas, ça sert à rien de le noter aujourd'hui, oui. Parce que personne ne se souvient de son nom. Mais bon, voilà, il y avait des trucs quand même qui étaient flagrants, quoi. Et lui, il avait bien compris que s'il piégeait, s'il faisait... s'il mettait les gens devant le fait accompli, les gens auraient bien été obligés de le suivre, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, quoi. Et avec les politiques, il a fait ça, effectivement, c'est qu'il ne les a pas prévenus, il a fait le truc... Et puis, il leur a fait promettre. Comme il avait une tribune populaire, il disait alors oui, mais alors la gauche, ils nous ont promis ça, alors qu'est-ce que vous nous donnez? Ah, bah alors d'accord. Et puis après, il allait voir, il disait bah, la droite, ils nous donnent ça, vous vous donnez quoi? Parce que vous allez avoir l'air con. Et ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, encore au resto. Enfin, qu'ils font beaucoup, hein, moi j'y participe assez peu. C'est que quand il y a un politique, des fois, quand on ouvre un centre dans une ville, il y a un politique qui veut venir
pour se montrer,
pour briller un peu
aussi,
sur la photo.
Mais il faut lui demander quelque chose.
Et on appelle toujours son concurrent parce que les Restos du Cœur, c'est apolitique, quoi. C'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est juste de la solidarité. Et ça, ça n'a pas de parti.
Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la photo emblématique en noir et blanc des Restos du Cœur, empruntée chaque année par les Enfoirés? Je suis pas certain que tous les auditeurs la connaissent.
Ouais. Non, c'était un photographe qui n'arrêtait pas de suivre Michel à Cannes pour avoir une photo. Il voulait une photo, il voulait une photo, il voulait une photo. Et puis à un moment, Michel, qui n'avait jamais le temps, a dit là, maintenant, j'ai le temps. Il lui a dit viens, suis-moi, sauf qu'il allait aux chiottes. Et il avait laissé la porte ouverte. Et donc, en fait, il est aux toilettes.
On verra plus la photo de la même façon.
Non, c'est clair. Mon cher Marius Colucci, on parle, et on en oublierait presque la compétition. Or, un candidat sérieux au titre de chroniqueur du jour se présente devant nous. Son humour étant une de ses principales qualités, il se devait d'être là pour cette spéciale Coluche. Oui, comme votre père Marius, Nicolas Caro a reçu ce don du ciel qu'on appelle l'esprit, comme a pu le constater la cantatrice Nathalie Dessay jeudi.
Nathalie, est-ce que vous êtes trop basse ou pas?
Pas du tout, j'adore être basse.
Venant d'une soprano...
Nicolas Caro,
je suis désolé, elle est pas mal.
Qui mieux que vous pouvez nous parler des romans les plus drôles de l'histoire, à part peut-être Coluche et encore dans un bonjour, hein, personne. Nicolas, oui. Vous nous parlez donc de ces romans où l'on rit.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de romans dans lesquels on trouve des passages drôles, comiques ou spirituels. Je pense à Oscar Wilde, il y a des phrases, c'est un peu comme Coluche, Oscar Wilde, il y a des citations
super
pour toute situation.
Qui comme, sont peut-être de Coluche d'ailleurs, on ne sait pas.
Ça pourrait être Coluche. Les hommes se marient par fatigue, les femmes par curiosité, tous sont déçus. Mais des romans vraiment drôles, conçus pour ça, c'est plus rare. Alors je parle des romans qui enchaînent les gags, je parle des livres à la fois profonds et très drôle, il en existe quand même. L'humour anglais d'abord, Le Guide du Voyageur Galactique par exemple, signé Douglas Adams, écrit en 1978. C'est un humour absurde à la Monty Python. Au départ, c'était un feuilleton radiophonique et c'est devenu un roman en 5 tomes. On dit même une trilogie en 5 tomes, puisque l'auteur voulait faire une trilogie, mais il n'a pas résisté à en écrire 2 autres. Mais il a quand même gardé l'idée de trilogie parce que ça lui plaisait. Donc, trilogie en 5 tomes. Voici les 5 titres. Le Guide du Voyageur Galactique, donc, c'est le premier. Ensuite, vous avez le dernier restaurant avant la fin du monde, puis La vie, l'univers et le reste, Salut et encore merci pour le poisson, ça c'est le 4e, et enfin, Globalement inoffensive, l'histoire rapidement c'est celle d'Arthur Dent, un humain, il est embêté parce que des bulldozers sont dans son jardin, sa maison doit être détruite, mais en fait ça n'a pas tellement d'importance puisque la terre elle-même va être détruite aussi dans quelques instants. Heureusement, son meilleur ami arrive, il lui demande de se munir d'une serviette de bain. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'une serviette de bain. Ils lèvent le pouce en l'air et ils sont pris en stop par un vaisseau spatial qui passe au-dessus de la Terre. En fait, son ami n'est pas humain. Il travaille pour le Guide du Voyageur Galactique et on les suit donc dans un grand périple intergalactique et on rencontre tout un tas d'extraterrestres bizarres et un robot dépressif.
Est-ce qu'il y a des romans qu'on peut lire sans se droguer?
Oui, celui-ci par exemple, mais ça fait le même effet que la drogue, effectivement. Chez les Américains, il y en a beaucoup aussi. Je vous conseille La Conjuration des Imbéciles.
Génial.
Un type complètement imbu de lui-même, spécialiste d'histoire médiévale, mais très laid et feignant comme personne. Il vit chez sa mère, il passe son temps à critiquer le monde entier. Il vit de petits boulots quand il arrive à se motiver et il rate tout sur tout. C'est un livre très drôle, mais aussi très très profond, celui-là. On ne voit pas le monde de la même façon après avoir lu ce livre.
Est-ce que ça se lit bien en français, pardon? Est-ce que la traduction est bonne?
Ah oui, ma mère avait ce livre en 5 exemplaires, elle l'offrait à toutes les personnes qui ne le connaissaient pas.
Donc c'est formidable
c'est,
en français.
C'est Kennedy Toole.
John Kennedy Toole. Son histoire est incroyable.
Et son, voilà, il a écrit le... Bah non, je t'en prie, je ne vais pas te voler ta chronique.
Il était persuadé d'être un génie littéraire, ce qu'il était, mais il n'arrivait pas à être publié, donc il s'est suicidé. Et c'est sa maman qui a repris son manuscrit, qui a fait le pied de grue chez les éditeurs, jusqu'à ce que ce soit publié. Et immédiatement, il est devenu prix Pulitzer et succès mondial. Voilà. Alors les Français aussi, hein, y a Bouvard et Pécuchet de Flaubert, bien c'est sûr. Très très drôle. Et puis il y a Éric Chevillard, édité depuis 35 ans aux éditions Minuit. Ah bon, on a les mêmes goûts.
Ça sent bon les trois points pour Nicolas Carreau.
Il écrit des romans au titre étrange comme Mourir m'enrhume, Le caoutchouc décidément ou La nébuleuse du crabe. Il tient un blog aussi. Tous les jours, il écrit 3 aphorismes, 3 notes. Et sur le blog et dans les romans, c'est toujours drôle. Je vous cite 2 exemples. Un miracle, à l'instant où la foudre tombant du ciel allait le frapper, il fut emporté par une avalanche. Et dans un de ses livres, il y a cette phrase qui est quand même magique. Le cygne n'est jamais qu'un dromadaire avec de l'eau jusqu'aux couilles. C'est assez visuel.
Je recommande Préhistoire, qui est excellent sur un
gardien de,
un guide de grotte qui veut pas ouvrir sa grotte et qui repousse jusqu'au dernier moment, jusqu'à se poser des questions sur les punaises qu'il y a au coin de la carte. Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'il faut pas les remplacer? Enfin voilà, il est très bien. Et Chevillard, il est très très bien. Il a une écriture qui est très agréable, qui est très simple et qui nous emmène vers sa folie. Son surréalisme que j'aime beaucoup.
On parlait tout à l'heure de complicité éventuelle entre l'invité et moi. Je commence à me poser la question de savoir si Marius Colucci et Nicolas Carreau ne seraient pas meilleurs potes dans la vie qu'ils ne l'auraient pas dit pour se mettre d'accord sur cette chronique qu'ils ont faite à deux voix. Merci messieurs.
Europe 1.
À suivre, parfois je m'en veux de la martyriser ainsi et puis très vite j'oublie. Chaque jour vers 5h-20, j'impose à Eva un quiz qui l'oppose à l'invité dans un domaine évidemment où l'invité est balèze et elle complètement nulle. Aujourd'hui, ce ne sera pas un quiz sur les citations de Coluche, je ne suis pas vicieux à ce point, mais elle devrait néanmoins une fois de plus vivre un moment de solitude assez terrible. Peut-être pas autant que vendredi quand elle a essayé de chauffer le public.
Vous êtes toujours chaud le public ?
Non, c'est moche.
Ouais. C'est moche. Mais c'est ça risque d'être pas mal quand même en termes de solitude. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, une émission où humour et journalisme vont main dans la main au service de votre culture G et de votre gaieté depuis un studio relativement mythique, le studio d'un mec qui disait par exemple...
C'est un mec qui est dans une rivière et crie « Help ! Help ! » Et un mec qui passe, il dit au lieu d'apprendre l'anglais, je vais mieux apprendre à nager, lui.
Et dans le studio Coluche, aujourd'hui son fils, le comédien Marius Colucci, pour la sortie d'un recueil des meilleures citations de votre père. Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon au Cherche Midi. Est-ce que tous les sketchs de votre père, vous les connaissez par cœur ou
Par cœur, non.
Non, pas par cœur, mais vous les connaissez tous ou vous en redécouvrez parfois des sketchs?
Non, des sketchs, ça va. Les sketchs, ça, je connais bien, ça. Après, des phrases, entre ce qu'il disait à la télé, ce qu'il disait à la radio, ce qu'il disait dans ses sketchs ou dans des films. Non, des fois, oui, c'est vrai que je me fais surprendre un petit peu. Oui.
Là, je parle de mémoire, donc ce qui suit n'est pas forcément juste, mais il me semble que juste avant sa disparition, il avait un nouveau spectacle de prévu, Coluche. Et un spectacle
qui était entièrement.
Parce que je me souviens d'une interview avec Michel Denisot où il disait que tout allait être nouveau. Parce que souvent, aujourd'hui, on reprend un spectacle.
Il
disait que tout était
neuf.
Et donc, ça. Est-ce que ce spectacle, ce texte, vous l'avez ?
Pas du tout.
Pas du tout, on ne sait pas où il est. Il a dû l'écrire.
Oui. Non. Il n'écrivait pas, il écrivait au dernier moment. Il avait des dictaphones où il notait des phrases. Ouais. Mais lui, des fois, moi je me rappelle très bien, une fois, on était à la maison, il était avec ses copains, puis moi je regardais la télé ou je ne sais plus, je faisais un truc de gamin, quoi. Et il débarque dans la salle où il y avait son dictaphone, où moi j'étais, et il le prend et il dit « ça t'embouche un coin ». Et il éteint et il repart. Et pendant des années, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'était que cette blague avec « ça t'embouche un coin » ?» J'en sais rien, c'était la punchline, ça devait être « ça t'embouche un coin », mais ça devait être avec toute une réflexion que je n'avais pas. J'ai jamais trouvé, désolé, sinon je l'aurais écrit le spectacle, j'aurais. Hein.
Alors Marius, dans une ville, il y a des moments forts, des défis qu'il faut savoir relever. Je vous présente Eva Rock, dite dans sa Nice natale, le pambagna fumant. Votre père l'avait d'ailleurs rencontré lors d'un spectacle à Nice.
Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois Superwoman sur une terrasse. terrasse, oui, oui. Les jambes écartées,
oui,
au soleil.
Oui, elle était au soleil. Oui, ne remuons pas les vieux souvenirs. Marius, êtes-vous prêt à affronter le Pambania fumant?
Certainement.
C'est l'heure de notre quiz. En hommage à Rigolez pas, c'est avec votre pognon aux éditions du Cherche Midi, un recueil de citations toutes plus efficaces les unes que les autres. Un quiz de citations cet après-midi. Voilà. Un auteur à retrouver à chaque fois. Trois propositions.
Sacha Guitry.
Vous jouez en même temps. Bonne réponse de Marius Colucci. Alors attention, c'est parti. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Tenez Judas, par exemple, il avait des amis irréprochables. Trois propositions. André Santini.
Non.
Verlaine. Gainsbourg.
Ah, moi, j'irais bien Gainsbourg.
Bah ouais, mais alors, est-ce que ce serait pas Verlaine juste pour...
C'est un piège.
Non, c'est Gainsbourg.
Vous êtes sûr, Marius?
Pas du tout. Je suis absolument pas sûr.
Quelle est la réponse? Vous vous dites Gainsbourg, oui. Et vous dites Marius.
Oui, bah allez, Verlaine pour dire autre chose.
Vous dites Verlaine, vous avez raison.
Ouais, j'en étais sûr.
Vous m'avez aidé. Non, mais...
Je vous ai aidé. Vous m'êtes sympathique.
Le but du quiz, c'est quand même que je perde.
Oui, j'ai bien compris.
Interdiction de gagner pour Eva. Si tu photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges, t'as pas besoin de flash. Jean-Claude Van Damme, Evangeli ou Alain Finkielkraut?
Allez, Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme pour Eva.
Je ne sais pas, je vais dire Evangeli, mais je ne sais pas qui c'est.
Vous ne savez pas qui est Evangeli?
Je crois que c'est une présentatrice.
Oh, bah, on ne sait pas trop.
On ne sait pas trop, oui.
C'est une personnalité, ouais. Oui, comme ça, qui traverse le monde des médias. Et non, c'est la bonne réponse, Eva Roth, Jean-Claude Van Damme. C'est une citation du célèbre philosophe belge.
Ouais.
Il ne faut jamais gifler un sourd, il perd la moitié du plaisir, il sent la gifle, mais il ne l'entend pas. Courteline,
c'est génial, ça.
Nicolas Bedos, Amanda Lear.
Courteline.
Courteline.
Ah, Nicolas Bedos.
Courteline, bonne réponse de Marius Colucci. Ouais. Je ne tournerai plus jamais avec des chameaux, je suis trop jaloux de ces bêtes-là, elles bandent tout le temps. Jean Dujardin, Mel Gibson ou Omar Sharif?
Jean Dujardin.
Oui, je dirais bien Dujardin.
Eh bien, vous connaissez mal Mel Gibson.
Non.
Il a déclaré ça. Et Mel Gibson, on dirait pas comme ça, mais c'est un sacré déconneur, en fait. À part les singes, tous les animaux refusent de faire l'amour face à face. Ils doivent pressentir que le derrière se ride moins vite que le visage.
Oh, c'est horrible.
Jeanne Moreau.
Oh, non, Mathieu.
Jean-Marie Bigard ou Sim?
Ah, Jean-Marie Bigard.
Allez, Sim, pour dire un autre.
Sim, Marius Colucci, bonne réponse. Et oui,
Bigard, il ne l'aurait pas dit comme ça.
C'est déjà pas mal quand même dans la vulgarité.
Quand je vole au-dessus des Alpes, je pense, voilà toute la cocaïne que j'ai sniffée. Elton John, Mick Jagger, Mère Teresa.
N'importe quoi.
John, Elton John.
Elton John.
Ouais, Mick Jagger.
Elton John, Marius Colucci s'envole dans ce quiz. Mais c'est vrai qu'Elton John, Mick Jagger, je pense que Mick Jagger en survolant les Alpes doit se dire à peu près la même chose. Dieu, attention, ça va vous départager. Dieu a créé l'homme et ensuite, pour le remercier, l'homme a créé Dieu. Philippe Geluck, Michel Onfray, Raymond DeVos.
Oh, ça pourrait être Geluck, ça.
Allez, moi, je dis Raymond DeVos.
Eh bien, vous avez complètement perdu. 6-1, victoire triomphale. C'était effectivement Philippe Geluck que nous recevions vendredi. Voilà. C'était bien trouvé, cette phrase.
6-1, j'ai perdu.
6-1, aujourd'hui, c'est une déculottée.
Score de tennis.
Oui, ils se sont un peu arrangés avec les
sauf
points.
Sauf qu'il n'y aura pas de deuxième set. Un livre nous propose de retrouver les meilleures citations de Coluche. Son fils, Marius Colucci, est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, 30 ans que le mur de Berlin est tombé, la plupart des gens s'en réjouissent. Quelques mélomanes regrettent les merveilles musicales nées à l'ouest du rideau de fer quand la RFA tentait de prouver à la RDA qu'elle était cool. À l'époque, quoi de plus cool que de reprendre un tube brésilien en allemand? Y a-t-il un mausolée dédié à l'immense Tony Holiday qu'on entend là? C'est la question que je vais poser à Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin, qui nous livre aujourd'hui un petit guide pour découvrir les vestiges du mur loin des circuits touristiques habituels. Ce sera juste après Téléphone. Cendrillon sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'une compétition acharnée entre les meilleurs journalistes d'Europe 1, dont la rédaction est devenue le théâtre d'un véritable western.
Tu sais pourquoi les Indiens criaient tout le temps sur le cheval quand ils allaient à l'attaque? C'est parce qu'on oublie de dire un truc, c'est qu'ils n'avaient pas de sel, mais ils n'avaient pas de slip non plus.
Chaque après-midi, sans sel et pour certains d'entre eux sans slip aussi, nos journalistes se démènent pour vous offrir l'info la plus surprenante, l'histoire la plus édifiante, sous l'œil d'un invité d'honneur. Et pour cette spéciale Coluche, qui de mieux que son fils, le comédien Marius Colucci est avec nous. Et au moment où je m'apprête à lancer le sujet suivant, sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin, je réalise une chose incroyable. Coluche n'a pas connu la chute du mur. Il n'a pas connu la fin de l'URSS.
Ah oui, c'est vrai, ça.
Ce genre de borne historique, vous y repensez parfois, Marius Colucci? Coluche, vous vous dites, tiens, papa, il n'aura pas connu ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait comme vanne là-dessus? Vous vous dites jamais ça? Vous
non,
dites jamais les
ça,
vannes
je me dis jamais ça.
Les vannes qu'il aurait pu faire sur des choses historiques qui nous ont marqué depuis?
Ah non, non.
Vous dites pas
ça. Je pense pas du tout à ce genre de truc. Non, non, non. Moi, déjà, tout ce qu'il a fait, lui, hein, c'est bien assez.
C'est sûr.
Il y a de quoi faire. Hein.
Ah donc, oui, c'est riche.
Non, oui,
on voit l'épaisseur de l'île.
J'ai pas cette nostalgie-là, effectivement, de me dire qu'est-ce qu'il aurait dit, ah, s'il était là. Voilà. Ça fait chier hein, de dire ça, mais ça appartient à un temps. Et puis,
oui.
Alors voilà, alors aujourd'hui, quand on l'écoute, bah, c'est super parce que c'est encore pertinent aujourd'hui, mais ça appartient à un temps quand même, qui n'est plus le temps dans lequel on vit aujourd'hui. Quoi. Mais ça, c'est le deuil. Hein. Alors, il faut s'y faire en France quand même, que Coluche est mort. Hein,
on a du mal, Marius, à y croire. Alors, justement, parler du mur de Berlin qui est tombé il y a 30 ans, on part à Berlin retrouver Hélène Kohl. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu Noël.
Vous êtes notre correspondante à Berlin. Et à Berlin, plus de mur depuis 30 ans. On a revu ces images pendant le week-end. Qu'est-ce qu'il reste du mur aujourd'hui?
Alors, il reste d'abord quelques tronçons, mais ils sont généralement pris d'assaut par les touristes. Du coup, ils sont régulièrement rebétonnés pour tenir le choc, ou bien ils sont protégés derrière des grilles. Ou alors, comme à Checkpoint Charlie, c'est du TOC, le célèbre panneau qui indique « Vous sortez du secteur américain ». C'est un faux, comme y a des faux soldats, qui sont en fait, tenez-vous bien, des go-go dancers d'un club bas de gamme assez connu.
Ah là, je vous reconnais bien. Alors... Ah oui, assez connu de vous, visiblement, Hélène. Je vois qu'on s'en est pas,
exactement.
Berlin.
Alors, le vrai mur, par contre, vous l'avez au mémorial de la Bernauer Strasse, qui est un musée en plein air le long du No Man's Land, assez bien fait, avec beaucoup de témoignages. Mais si vous voulez, Mathieu, je vous emmène à la découverte du mur invisible, le vrai mur secret des Berlinois.
Du mur invisible, j'ai trop envie d'aller voir le mur invisible avec vous, Hélène Kohl. Emmenez-nous loin des touristes.
Alors, d'abord, écoutez ce bruit. Donc, c'est un tram, hein, on est bien clair. Mm-hmm. Et donc là, vous pouvez être sûr que vous êtes à l'est. Parce qu'en fait, à l'ouest, il n'y avait pas de tram. Ah. Et en 30 ans, aucune ligne n'a réussi à franchir le rideau de fer. Donc, quand vous regardez un plan des transports publics à Berlin, là, vous avez le mur sous les yeux. D'un côté, l'est avec le tram, de l'autre côté, l'ouest, pas de tram. Maintenant, vous relevez le nez du plan, parce que sinon, vous allez vous prendre un lampadaire. Et là, il y en a certains en métal et d'autres qui sont en béton. Et là encore, c'est ceux de l'ouest et ceux de l'est. Et puis, dans certaines rues, côté pair, côté impair, vous avez les deux formats, béton et métal. C'est parce que vous êtes pile poil sur le tracé du mur qui passait au milieu de la chaussée. Et puis, il y a comme ça dans la ville plein de petits détails complètement incongrus qui ne font sens que quand on sait qu'il y avait un mur autrefois. Par exemple, cette fameuse cabane d'Osman.
Oh oui, parlez-nous de la cabane d'Osman.
Alors, c'est l'histoire d'un père de famille turc, côté ouest donc, qui cherche un endroit où faire pousser son jardin dans la ville. On est dans les années 80, il remarque que juste au pied du mur, il y a là un terrain triangulaire à l'abandon. Forcément, il se dit, bah, c'est pour moi. En fait, c'est un bout de Berlin-Est. Au moment de la construction du mur, la RDA a oublié de l'inclure. Donc le mur, au lieu d'encercler ce terrain, passe quelques mètres devant. Et les autorités de Berlin-Ouest n'ont jamais osé se l'accaparer. Officiellement, c'est la RDA. S'ils y mettent un seul bout de pied, ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc Haussmann, il dit, bah, c'est mon terrain, je le prends. Il fait son potager, il met son abri de jardin. Ça devient une vraie baraque en bois. Il y va tous les week-ends avec sa famille. Et quand le mur tombe, eh bien, ce terrain se retrouve au beau milieu de la ville, dans un quartier qu'aujourd'hui absolument prisé, avec des lofts tout autour. En 30 ans, on n'a toujours pas réussi à trancher à qui appartenait ce terrain et à quel arrondissement il faut rattacher la cabane d'Haussmann. Et aujourd'hui, si vous y allez, et ben c'est bien simple, on lui attribue le numéro 0 de la rue. Et moi, je trouve que c'est la trace la plus parlante de tout Berlin, la trace du mur, parce que là, on voit bien combien c'était absurde de séparer la ville en deux avec un mur.
Le Berlin insolite avec Hélène Kohl. Vous avez une reconversion toute trouvée, Hélène. Vous pouvez faire des visites guidées de Berlin.
Ah bah c'est ça, venez, je vous emmènerai voir les trucs encore plus incroyables.
Oui, je me suis laissé dire que le tour by night était pas mal aussi en votre compagnie. Merci beaucoup Hélène Kohl.
À bientôt.
Europe 1.
L'équipée sauvage spéciale Coluche continue en présence de son fils Marius Colucci. De nouveaux candidats au titre de chroniqueur du jour vont arriver. On va parler notamment d'une application qui fait fureur chez vos ados, TikTok, et que les États-Unis veulent carrément interdire. Pourquoi? Que craignent-ils? On vous explique. Et puis évidemment, on saupoudrera le tout d'un peu de Coluche.
Vous savez ce que c'est qu'un spermatozoïde avec un attaché caisse? C'est un représentant de mes couilles.
À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Pour notre spécial Coluche aujourd'hui, nous avons en plateau deux éminents spécialistes, son fils, le comédien Marius Colucci, et Eva Rock, une de ses plus grandes turiféraires.
Quoi ?
C'est un mot un peu chic pour dire que tu kiffes, quoi. Eva, qui, mon cher Marius, fait souffler au quotidien l'esprit de Coluche dans le studio Coluche. Souvent, au détour d'une discussion, un sketch de Coluche lui revient. Et avant même de vérifier si elle se mélange pas les pinceaux avec un autre sketch ou un autre souvenir, elle y va, sans se soucier des conséquences.
Tu sais que c'était comme le sketch de Coluche. Quand je fais ça, aïe, ça me fait mal. Et il disait, si je fais ça, aïe, ça me fait mal. Mais il est en train de le faire, tu vois. C'est comme toi quand tu dis, j'arrive pas à dire machin et que tu le dis, en fait.
Oui. toujours dire oui aux patients, surtout quand ils s'enlisent comme ça, c'est terrible. Heureusement, la compète continue. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Deux nouveaux journalistes en compétition s'échauffent avec deux chroniques qui vous permettront de mieux comprendre vos ados. L'une va vous expliquer ce qu'est la League of Legends, l'autre ce qu'est TikTok, l'application dont vos ados sont dingues et que le gouvernement américain veut carrément faire interdire.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage. Deux heures d'une bataille sans pitié entre des journalistes qui n'ont visiblement rien compris au concept d'armistice et qui continuent de se castagner gaiement, même le 11 novembre. Tout fout vraiment le camp dans cette société. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui vous aura livré l'info la plus bluffante, l'histoire la plus marquante, sous l'œil cet après-midi du comédien Marius Colucci venu nous présenter « Rigolez pas, c'est avec votre pognon » un recueil des meilleures citations de son père. Un mec qui a fait 2-3 blagues sur Europe 1 à une époque.
C'est les Indiens et les bûcherons. Alors le bûcheron, il est en train de couper du bois et il dit « Va demander à un Indien s'il va faire froid cet hiver, parce que les Indiens, ça doit s'y connaître bien en température. » Alors l'Indien, il dit « Non, est-ce que vous croyez qu'il va faire froid cet hiver ?» Alors l'autre, il fait « Oh oui, hiver rigoureux !» Alors le bûcheron, il coupe encore du bois, il coupe, il a un gros tas derrière lui. L'Indien repasse, il lui dit « Oui, oui !» Très rigoureux l'hiver. Alors il recoupe du bois, un énorme tas. L'Indien repasse, il dit « Oh là là, très très rigoureux !» Mais il dit « Comment tu le sais ?» Parce qu'il dit « Chez nous, il y a un dicton. Quand l'homme blanc coupe du bois, c'est qu'il est rigoureux. »
Il nous manque, Coluche. On continue d'en parler avec vous, Marius Colucci. Le temps de vous présenter deux nouveaux journalistes en compétition. Face à vous, un journaliste très satisfaisant, mais surtout un amant très satisfait.
90% de satisfaction. Tout le monde en redemande.
Bonjour Anicel Bida.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Vous êtes notre spécialiste high-tech et aujourd'hui, vous allez tenter de nous reconnecter avec nos jeunes en nous expliquant comment marche le e-sport. Car oui, le jeu vidéo est désormais un sport à part entière. Et on en a eu la preuve hier à Paris.
Oui, hier à Paris, il y a eu la finale d'un jeu qui s'appelle League of Legends. C'était un peu, vous connaissez la Ligue des Champions, vous connaissez le championnat, vous connaissez les Jeux Olympiques. Bah, c'était quasiment l'équivalent qui avait lieu à Paris. Je vous explique exactement pourquoi c'est très important et pourquoi on va en reparler.
À vos côtés, Anissé, un rival certes, mais avant tout un collègue, un ami qui jamais ne balancerait sur vous, sur ce qui vous serait arrivé par exemple dans une autre entreprise avant de rejoindre Europe 1, pas vrai Axel ?
Effectivement, il a été limogé à cause d'une liaison interne.
Oui, alors, bonjour Axel de Tarlé, vous êtes l'expert éco d'Europe 1 et aujourd'hui, vous aussi, vous nous aidez à reconnecter avec nos ados qui eux sont connectés en masse à l'appli TikTok, une application qui visiblement pose problème en tout cas au gouvernement américain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Oui, en fait le problème de TikTok c'est que c'est chinois et donc on se demande si les chinois sont pas en train d'espionner tous les petits ados. Ça existe aussi en France. Voilà, donc j'ai décidé d'attaquer Anissé sur son terrain en vous parlant des nouvelles technologies.
Compétition
vous
de jeunisme aujourd'hui.
Vous allez voir, Ligue des légendes, elle est là, bien vivante.
Alors, immersion dans les coulisses des pros du jeu vidéo ou TikTok, l'appli qui rend toc toc. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, le résultat tombera peu avant 18h. En attendant, on continue d'évoquer le souvenir de Coluche avec son fils, le comédien Marius Colucci, vous connaissez forcément.
Marius Colucci.
Ah non, là, c'est son fils.
Ouais, Coluche, il y avait Coluche qui portait un nom proche, mais non, Colucci, je connais pas.
Il y en a eu, hein. Les mecs étaient plus forts que leur père, aussi fort. Alexandre Dumas, père et fils, hein. Guitry, qui était plus fort que son père, qui était un acteur très connu.
C'est la base, Coluche. Le Resto du cœur, c'est un grand monsieur.
Il ressemble un peu à son père.
Et il jouait dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, je crois. Voilà.
Attendez, moi je connais un Colucci, c'est Coluche. Marius est dans Pagnol, je ne suis pas complètement inculte. Donc j'ai les deux, mais pas dans l'ordre.
Je pense qu'il peut réussir à séparer l'image de son père, faire sa propre carrière.
Il y en a qui ont eu plus lourd, demandez au fils de De Gaulle.
On lui souhaite bonne chance à Marius.
C'est vrai qu'en termes de nom du rapporté, vous auriez pu être le fils de Gaulle, Marius, ça aurait été plus compliqué.
Je l'ai vu sur 2 ou 3 plateaux, le fils de Gaulle. Oui, moi je suis content d'être fils de Coluche, en fait, ça me va bien. Hein.
C'est plus sympa.
Ouais, pour les oreilles, je m'y retrouve vachement mieux.
Marius, on en rigole, mais est-ce qu'à un moment, ça a été compliqué d'être le fils de Coluche ? Je pense à l'adolescence, où l'adolescence, c'est compliqué pour tout le monde, pour se construire. Est-ce que
oui,
vous...
non mais alors, c'est un peu chiant tout le temps, hein, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent qu'à moi que pour
à
ça.
À travers ce biais-là.
Voilà,
c'est bien pour les filles. Ça.
Non, moi je m'en fous, moi, c'est pas mon truc. Moi. Alors,
Pour les garçons.
Non plus, non. Non, non, je me rappelle une fois avoir prétendu ne pas être le fils de Coluche pour échapper à un truc qui me me semblait sordide, pas intéressant. Enfin bon, c'est bizarre. Par procuration, le sexe, c'est quand même, c'est pas mon truc. Mais non, mais oui, voilà, fils de Coluche. Le seul truc, c'est qu'il y a des gens que ça obnubile, quoi, qui ne parlent plus que de ça, et c'est chiant. Donc voilà, moi, je fuis le truc.
Mais cela dit, c'est tout à votre honneur. Vous n'avez jamais capitalisé sur le fait que vous étiez le fils de Coluche. Tout ce que vous avez fait en tant que comédien, par exemple, les rôles de comédien, vous avez été pris à un casting parce que vous étiez bon. Vous avez jamais incarné Coluche. Est-ce qu'on vous a proposé d'incarner Coluche à l'écran?
Oui. Ils m'ont proposé.
Et vous avez dit non. Pour le fameux film que vous n'aimez pas?
Oui.
Ah bah voilà. Ouais. Et donc vous avez refusé.
Et j'ai refusé. Bah oui, bah je peux pas dire foutez-moi la paix d'un côté et puis de l'autre côté l'interpréter, quoi.
Eva Rock.
Mais oui, parce que c'est vrai qu'on vous connaît pour être comédien, alors au cinéma notamment. Alors je pense notamment les derniers films avec sous la direction de Marie-Lou Berry, hein, avec qui vous avez films. Joséphine Sarrondi, Quand on crie au loup. À la télé,
c'est des tout petits rôles.
C'est des petits rôles, mais
c'est pour aller faire coucou à une copine. Hein.
On vous a beaucoup vu avec Antoine Duléry, donc dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Les gens s'en souviennent très bien. Il y a quelques semaines, dans un très bon téléfilm, Connexion Intime, où il était question du rapport des ados à la pornographie.
Voilà.
On a entendu votre voix en tant que chroniqueur dans une radio concurrente.
Qu'on ne citera pas, mais je salue au passage parce que c'est des copains.
Ouais. Où vos collègues vous surnommaient Coluchipédia, paraît-il. Notamment, vous savez plein de choses. Et puis on a entendu votre voix aussi sur scène en chanson avec votre groupe Les Marioles. Des chansons très drôles. Et sur scène apparemment, parce que je n'ai pas eu la chance de vous voir. Vous vous éclatez des extraits que j'ai pu, retrouver. Il paraît d'ailleurs que dans la vie, vous êtes un vrai jukebox. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Vous chantez tout le temps?
Tout le temps. Je connais 12 000 chansons, je les chante tout le temps, j'adore ça. Alors, sous la douche, c'est l'enfer. Mais oui, j'aime beaucoup ça, puis c'est distrayant. Voilà, celui qui chante ne s'ennuie jamais.
Et alors, quel est le prochain projet de Marius Colucci?
Alors, c'est un truc qu'il ne faut pas être pressé, parce que je vais mettre longtemps à l'écrire. Je veux expliquer comment marche le corps humain à travers le sexe.
Très bonne idée.
Et l'esprit humain, voilà, l'être humain en général.
Et pour l'instant, vous êtes en phase d'écriture.
Pour l'instant, je m'entraîne encore.
Il faut beaucoup d'expérimentation avant de livrer
Exactement. Ce
spectacle. Sinon, pour l'instant, il y a le recueil des meilleures citations de Coluche. Rigolez pas, c'est avec votre pognon disponible au Cherche Midi. Son fils, Marius Colucci, est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, ça démarre comme une vanne de Coluche. Quel est le point commun entre une ado plongeant dans une piscine déguisée en sirène, deux jumeaux dansant sur le toit de leur collège et Arnold Schwarzenegger chevauchant un poney nain? Eh bien, l'application TikTok, dont vos ados sont déjà fous, sauf que TikTok est chinois, et ça inquiète beaucoup Donald Trump, qui voudrait faire interdire l'appli favorite des moins de 20 ans. Alors, faut-il vraiment avoir peur que la Chine espionne nos jeunes via TikTok? Oh, moi je me suis inscrit pour voir, et à part un petit message de temps en temps... Je ne me sens pas espionné. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et toute la bande de l'équipe sauvage est heureuse de vous accueillir, même le 11 novembre. Et même si, Eva, je sais que je ne vous l'ai pas dit, on n'est pas payé double.
Ah oui, oh putain.
Eh bien, partez pas maintenant qu'on est là, c'est dommage, Eva, profitons du moment. En plus, on est avec le comédien Marius Colucci, venu nous présenter Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon, Recherche Midi, un recueil de ses meilleurs punchlines. Comment il travaillait, votre père Marius, là, pour préparer cette émission? Non seulement j'ai lu le livre, mais j'ai réécouté aussi toutes les blagues sur Europe 1. Comment on trouve tant d'histoires?
Bah alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il parlait de n'importe quoi et c'était drôle. Donc en fait, il parlait de ce qu'il avait envie et puis ça faisait marrer tout le monde parce qu'il était drôle lui-même en fait.
Ah, ça c'est une question importante. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont un peu sinistres dans la vie. C'était pas du tout le cas de votre père, c'était quelqu'un de joyeux au quotidien.
Oui, très très joyeux, très très en bande, beaucoup de copains, beaucoup à rire. Bon, après, je pense qu'il avait ses moments à lui tout seul.
Comme tout le monde, mais c'était quelqu'un de. C'était une nature comme.
Toujours un moment où on se retrouve à poil, comme disait Bob Dylan. Mais comment il écrit, il travaillait, alors donc il enregistrait sur des petits dictaphones des trucs et ensuite il compilait ça et alors il faisait des pages où il mettait le nom des blagues et puis il les entourait avec des stylos de couleur. Donc voilà, quand on connaît le sketch et qu'on retrouve le papier avec la couleur, on arrive à dire ah oui d'accord, le vert suit le jaune, qui suit le rouge, qui suit le bleu. Voilà, on comprend à peu près, mais bon, c'était un truc pour se repérer lui quoi.
Est-ce qu'il avait des auteurs, Coluche, aujourd'hui? Chaque humoriste travaille souvent avec des auteurs. Et lui, jamais?
Pas du tout. Ben non, mais ça se faisait pas à cette époque-là. Enfin, ça n'existait pas. Je vois pas quel humoriste aurait pu avoir des auteurs à cette époque-là. Ça se faisait pas.
Et dans les humoristes d'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui pourrait se revendiquer d'être son héritier?
Je fais toujours un peu gaffe à ce genre de questions parce que dès qu'on en cite un, on n'en cite pas 12.
Oui.
Voilà, après, bah, y a des bons humoristes aujourd'hui. En gros, hein, ceux qui sont bien, c'est ceux qui n'essayent pas de faire du Coluche. Hein. C'est ceux qui essayent de faire ce qu'ils font eux. Quoi. C'est quand même ça qui marche le mieux. Hein.
On continue de parler de ce livre et de votre père, mais Marius Colucci, la compétition n'attend pas, même le 11 novembre. Voici notre troisième journaliste en compétition aujourd'hui, encore enivré de son succès de vendredi face à Philippe Geluck. Philippe Geluck, lui-même encore subjugué à l'heure où nous parlons par l'info hallucinante révélée en exclusivité par Axel de Tarlet pour Europe 1 vendredi, le téléphone portable pourrait nous déconcentrer.
Et en fait, le problème de cette addiction portable, alors outre le fait que c'est très dangereux quand on répond en conduisant, il y a que vous n'arrivez plus à vous concentrer et vous n'arrivez plus non plus à vous concentrer pour voir un film. Voilà.
Il y aura clairement un avant et un après cette chronique. Axel de Tarlet, aujourd'hui vous nous parlez de l'appli star de nos ados, TikTok, véritable phénomène, mais phénomène qui inquiète le gouvernement américain qui voudrait même l'interdire.
Voilà, alors d'abord TikTok. Donc,
qu'est-ce que c'est ?
Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une application de jeunes, vous savez, on se filme sur de la musique et puis alors on est en train de danser ou de chanter et ensuite on mixe les deux et on poste le tout sur internet et puis il y a des gens qui vous likent alors et plus on a de likes, plus on est content. Enfin voilà, c'est typique le truc. Bon, enfin il y a application star des enfants. En France, rien qu'en France, il y aurait 4 millions d'ados qui auraient téléchargé cette application. Très populaire aussi aux États-Unis. Et le problème de TikTok, c'est que c'est une application chinoise. Donc les Américains disent, bah, attention, est-ce que les Chinois ne seraient pas en train de siphonner toutes les informations, toutes les fameuses données,
toutes les datas sur nos ados.
Puis, une deuxième chose, c'est est-ce que TikTok n'aurait pas un agenda politique ? Genre, on censurerait des messages ou des vidéos qui seraient hostiles aux Chinois, qui seraient par exemple pour Hong Kong, etc.
La Chine qui censurerait des médias ?
Quelle drôle d'idée, c'est bizarre, Axel de Tarlet. Hein.
Voilà. Et, mais du coup, il y a un doute qui s'installe. Alors, évidemment, on se dit aussi que, tout bêtement, TikTok, c'est un concurrent de Facebook, que ça commence à peser 75 milliards de dollars et que les Américains n'ont peut-être pas envie d'avoir tous les jeunes qui basculent sur des applications chinoises. Il n'empêche, il y a un fond de vrai derrière cette critique et ce n'est pas la première fois qu'on l'entend parce que c'est exactement la même critique que celle qu'on avait formulée contre Huawei. Vous savez, Huawei, ce sont les antennes 5G qu'on installe partout. Mmh. Et c'est un fabricant chinois.
D'accord.
Et pourquoi les Américains ne veulent pas de Huawei ? Pourquoi même en Europe, on ne veut pas de ces antennes 5G Huawei ? Parce qu'on se dit, et si les Chinois utilisaient ces antennes 5G pour espionner toutes nos conversations ?
Mais ils pourraient, techniquement.
C'est la grande crainte.
Les Américains peuvent déjà le faire, d'ailleurs.
Oui, voilà.
Ils l'ont fait avec Snowden.
Ils le font, mais ça fait 50 ans qu'ils le font, donc on est habitué. Alors que les Chinois, ce serait nouveau. Donc ça nous inquiète. C'est tout
donc
ce qui
c'est
est
un peu ça qui les gêne, en fait. C'est que ce soit les Chinois.
Voilà, exactement.
Parce qu'en fait, tout ça ne sont que des légendes et personne ne va espionner personne. Ce qui les fait chier, c'est que les Chinois sont en train de prendre de l'importance diplomatique et politique dans le monde.
Il n'empêche. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec le patron de Huawei. France. Hein.
J'aime quand ça part sur du name dropping. C'est très bon. Alors racontez-moi.
Et je lui dis, mais alors vous espionnez ? Alors évidemment, le Chinois va dire, ah non, je ne fais pas l'accent
chinois.
Faites-nous
en chinois si vous voulez. La dernière fois, vous avez fait l'accent chinois, c'était très bon.
Hein. Et il me dit, ah non, nous n'espionnons pas. Et même si on le croit, ce qui est horrible quand même avec ces entreprises chinoises, c'est qu'on se dit, de toute façon, vu l'autoritarisme quand même un peu délirant du pouvoir politique chinois, on se dit qu'il serait obligé d'obéir. En Chine, bah, on obéit ou on termine dans un camp, ou en tous les cas, on vous remplace avec quelqu'un de plus conciliant. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est la grande différence avec les États-Unis, où on en pense qu'on en veut, mais le patron d'Apple a toujours refusé, malgré les injonctions du FBI, à donner les codes d'un abonné qui était pris dans une fusillade, en plus épouvantable, à San Bernardino. Et Apple a toujours dit non, écoutez-moi, vous ne me forcerez pas à donner les codes secrets de cet abonné. Et c'est là où on voit l'importance ou la force d'un État de droit, les États-Unis, par rapport à un État autoritaire. Vous savez, on dit souvent que la Chine, c'est un modèle et qu'ils vont tous nous bouffer. L'autoritarisme et le manque d'État de droit en Chine, on le voit, va être un frein à l'expansionnisme des entreprises chinoises parce qu'à un moment, on a besoin, quand on est une multinationale, d'avoir le respect du droit pour conquérir le monde.
Alors après, la Chine, c'est juste à côté de l'URSS, qui est quand même l'endroit où Internet n'a pas de droit. Et donc
l'URSS, donc.
Voilà. la Russie, pardon.
Ça n'a pas beaucoup de beaucoup changé.
Mais oui, mais je vous dis,
Coluche est avec nous.
De toute manière, ils laisseront pas faire ça. Non, mais voilà, et Snowden, s'il était chinois, il aurait eu beaucoup moins à fuir pour aller en Russie se cacher. Ouais. Donc,
personne n'est parfait.
Oui, c'est ça. Bien sûr. Puis, encore une fois, c'est ce qui fait chier les Américains, c'est la perte d'importance par rapport aux Chinois. On peut se l'annoncer tout de suite. Hein, c'est eux les prochains. Hein. Nous, on est dans la banlieue des États-Unis, mais on essaye de passer en banlieue chinoise là, parce que ce sera beaucoup mieux. Hein.
Merci, Axel de Tarlé. Votre chronique aura-t-elle intéressé? J'ai l'impression que oui. Notre invité, Marius Colucci, réponse juste avant 18h.
Europe 1.
On continue d'évoquer la mémoire du plus célèbre des humoristes français qui aurait eu 75 ans cette année, Coluche. Ensemble, on s'interroge comment son humour aurait-il évolué avec le temps. Eva, une idée?
Tu sais, l'humour, c'est... Enfin, faut...
Oui, merci Eva. Heureusement, votre expertise est plus riche en matière de choix télé. Et comme on a tendance à perdre beaucoup de temps à choisir le programme qu'on va regarder chaque soir, vous allez nous faire gagner un temps précieux en choisissant pour nous. Juste après, The Fame, Summer is a Curse sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage en ce 11 novembre. On aurait pu faire une spéciale armistice, mais on a pensé à vos zygomatiques. On a préféré faire une spéciale Coluche. Coluche qui aurait eu 75 ans cette année. Alors ça fait du bien de se replonger dans les archives de l'émission mythique d'Europe 1. Il y en aura pour tout le monde. Avec par exemple...
C'est dans un cinéma. Il y a, pendant le film, pendant que c'était tout noir, vous voulez, la fille s'est penchée sur le garçon... Au niveau, entre, si vous voulez, la taille. Et puis, elle n'a pas du tout regardé le film. Et comme tout d'un coup, ça se rallume et qu'ils n'ont pas fait attention, la fille fait semblant de chercher quelque chose par terre et le mec met son chapeau sur ses genoux. Voilà. Enfin, sur l'appareil. Et la fille fait semblant de chercher par terre. Alors, il y a un vieux à côté qui n'a pas compris, il dit à la fille, si vous cherchez sa bite, elle est sous le chapeau. Hein.
À toute une époque, c'est son fils, le comédien Marius Colucci, qui nous accompagne cet après-midi. Ensemble, on feuillette ce nouveau recueil de citations. Remettez-vous, Eva. Vous auriez aimé être là à l'époque, hein. Vous auriez aimé être Maryse, hein. Oui, je sens.
Oui, on l'entend, Maryse, sur le board.
Marius Colucci, parmi les phrases qu'on trouve dans ce livre, qui s'intitule donc « Rigolez pas, c'est avec votre pognon », il y a celle-ci qui est intéressante, car elle en dit long sur votre père. « J'ai toujours été plus subversif que comique. »
Ah oui. C'est-à-dire que... Il cherchait pas forcément à être drôle, il cherchait à dire des trucs, mais il était drôle, quoi. Donc effectivement, lui, il cherchait plutôt à foutre la merde. Hein. Ses potes, c'était quand même Choron, Rézère, qui étaient là pour foutre la merde. Hein. Moi, j'adore cette culture-là, d'ailleurs, cette façon de penser. Mais c'est, ben voilà, moi, c'est ce que j'aime dans l'humour, c'est quand on se fout de la gueule... parce qu'on sait bien que tout ça, c'est que des petites blagues, donc on peut taper sur qui on veut, quoi.
Est-ce que, Marius Colucci, vous avez joué dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, est-ce que vous-même, vous êtes un gros consommateur de séries?
Alors, pas tellement, figurez-vous. Moi, je suis un peu à l'ancienne, j'aime bien que les histoires s'arrêtent.
Ah, vous aimez les histoires bouclées, comme on dit dans la...
Voilà, moi j'aime les films. Et les séries, je trouve ça trop long en fait à regarder.
Eh bien, figurez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix, à se disputer avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder, film ou série. Vous connaissez aussi.
Largement 17 minutes.
Largement 17 minutes, plus visiblement chez les Colucci. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner avec vous, Eva Rock.
Mais oui, mais je savais que vous n'étiez pas fan des séries qui comptent 5-6 saisons et qui sont trop longues et trop addictives. Alors, je vous conseille cet après-midi une série en 10 épisodes de 20 minutes sur Slash TV. La série est intitulée Mental. L'histoire de Estelle, Mélodie, Simon et Marvin, ce sont des ados qui sont placés dans un institut, les Primes Verts. C'est une clinique pédopsychiatrique. Marvin vient d'arriver, il est placé par la justice dans cet établissement. Et rencontre avec la psy incarnée par Nicole Ferroni.
Et donc ici, chaque couleur a un sens. Donc par exemple, le rouge, c'est la colère, le noir, c'est la peur. Juste derrière, ici, c'est ton emploi du temps, et ça, on complétera ensemble. Et enfin, là, donc le dernier dessin, c'est pour le jour de ton départ.
Et quand on en a plein le cul, c'est quoi la couleur?
Eh bien, ça dépend de quoi il est plein. Donc, s'il est plein de colère, ce sera rouge.
Alors, après la psy, Marvin va rencontrer ses camarades, dont Simon, qui partage sa chambre et qui adore la littérature.
Maupassant, Proust, Dali, Van Gogh, Hugo, ils étaient tous complètement tarés. Tous. Parce que leur folie, c'était leur génie. C'est pas une maladie, ce qu'on a. C'est un don.
Alors, comment parler de l'adolescence et des difficultés psychiatriques auxquelles garçons et filles peuvent être confrontés sans imaginer des gamins en train de se taper la tête contre un mur? Eh bien, le réalisateur Slimane Baptiste Berroun y parvient avec brio, avec délicatesse surtout. Il n'y a aucune caricature, mais une immense sensibilité dans cette série. Les jeunes comédiens sont absolument parfaits, très touchants. L'adolescence, ça pue pour tout le monde, dit un soignant dans la série. Mental, bien, tente de montrer que ça ne fait pas que puer, mais que cette période de la vie, elle est aussi empreinte de sentiments, de questions existentielles. Juste, vous l'aurez sans doute compris, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette web-série, parce qu'elle n'est disponible que sur le site internet Slash TV, qui est la plateforme en fait de France Télé. 4 épisodes de Mental sont disponibles à ce jour, il y en aura 10 au total, et c'est gratuit, alors profitez-en.
Voilà. Alors profitez-en, j'aime bien quand vous détachez bien les mots comme ça, et ben, pour nos auditeurs qui seraient un petit peu lents. Merci, 17 minutes de gagner, merci beaucoup Eva Roch.
Europe 1.
L'équipée sauvage spéciale Coluche continue avec son fils, Marius Colucci, à suivre. Ensemble, on continue de découvrir des choses incroyables.
J'ai compris une chose.
Oui.
Pourquoi je suis toujours fatiguée? Je réfléchis trop.
D'accord, c'est intéressant. Mais plus intéressant encore, Eva, hier, à Paris, se tenait la finale mondiale de la League of Legends. Plus qu'un jeu vidéo, un phénomène de société devenu un sport à part entière. Les meilleurs s'affrontaient donc hier à Paris. Anissa Mbida y était. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage spéciale Coluche continue en compagnie de son fils, le comédien Marius Colucci, venu nous présenter un nouveau recueil des meilleures citations de Coluche. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Alors, dans la vie, Marius Colucci, il y a ceux qui sont numéro 1 dans leur domaine, comme votre père, et puis ceux qui, par la force de l'autopersuasion, arrivent à se convaincre qu'ils sont numéro 1. Écoutez ce document sonore extrait de notre émission de vendredi, en public. On y entend un animateur croire que le public est nombreux alors qu'il y a 27 personnes dans le studio. Un cas étonnant d'auto-hypnose. Vous êtes prêts? On peut démarrer l'émission? Ah, ils sont très très nombreux, j'ai l'impression d'être au Stade de France, j'ai rarement vécu ça. Et oui, grâce à l'auto-hypnose, on peut se convaincre d'un tas de trucs super. Ah, enfin, tant qu'RTL nous passe pas devant en audience. Prêt? Lui, il était numéro 1 pour de bon, mais depuis quelques jours, c'est la chute. Il est passé deuxième, puis troisième, jusqu'à se stabiliser à la pire place, la place dite du con. Quatrième, Anis Mbida, je vous ai mis la musique de la League of Legends pour vous donner la force de vous reprendre et peut-être de renouer avec la victoire.
Non, non, je vais commencer par vous reprendre, c'est pas de la League of Legends,
oui, bon,
c'est
vous en prie.
De League of Legends.
Ah oui, oui, mais j'arrive pas, League of Legends, d'accord.
Alors on va parler de jeux vidéo, hein. Déjà que le jeu vidéo est assez méprisé et incompris, imaginez-vous une compétition de jeux vidéo, c'est ce qui a eu lieu hier à Paris à 14h, il y a eu la finale des championnats du monde de League of Legends. Alors juste pour vous donner une petite idée de l'importance de l'événement,
ouais.
Écoutez les chiffres. Une fan zone au parvis de l'hôtel de ville.
Non.
17 000 places de Bercy qui ont été vendues en 20 minutes. Un trophée qui a été remis dans une malle Vuitton, exactement comme à la
comme
Coupe,
la
du,
coupe
monde.
Du Monde.
Des pics d'audience. Ça a duré assez longtemps, hein, les parties, parce que c'est dur...
En cinq manches,
3,7 millions sur Internet hors Chine. C'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré, or qu'il y a un des participants qui était chinois. Et on estime qu'il y a plus de 100 millions de téléspectateurs au total.
Alors,
et attends, pourtant, on n'en parle pas. On n'en parle quasiment
pas.
C'est un événement mondial du niveau de la Coupe du Monde.
Écoutez le monde changer. On l'écoute. On a les oreilles grandes ouvertes. Et qu'est-ce que c'est déjà le jeu League of Legends,
c'est un jeu de stratégie, de conquête territoriale. Donc, c'est deux équipes avec 5 personnes. Et le but du jeu, c'est d'aller détruire la base de l'adversaire dans un monde un petit peu fantastique avec des monstres, etc.
C'est risque en mieux foutu.
Dans un univers un peu fantasy, c'est le jeu le plus joué au monde et c'est le premier jeu qui a institué cette idée de compétition sportive sur le modèle des ligues de basketball américaines. Donc il y a une ligue européenne, une ligue chinoise et à la fin tout le monde se faisait. Et hier c'était la grande finale, c'est les Chinois qui ont éclaté.
Mais c'est toujours les Asiatiques qui gagnent.
3-0, un match à sens unique.
Quand c'est pas les Chinois, c'est les Coréens, ils nous dominent vraiment.
Ils sont très en avance sur ce sujet-là.
Et alors Anissé, c'est complètement professionnel, c'est-à-dire que les joueurs là sont payés.
Oui, les joueurs sont payés. Il y a des ligues, il y a des ligues 1, des ligues 2.
C'est leur métier.
C'est
le matin, ils se lèvent, ils disent qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais jouer à League of Legends.
Alors, c'est pas un métier d'avenir. Hein. Attention, ça tourne vite. Hein, parce
qu'il
y a des millions de joueurs. Non, mais c'est.
Les carrières sont plus courtes qu'en foot encore.
Voilà, c'est ça. Des Ronaldo, il y en a pas tout le temps. Et quand il y en a un qui passe, il a 50 carrières. Donc voilà, c'est pas non plus.
Marius, je sens que vous jouez aux jeux vidéo.
Oui, bien sûr que je joue aux jeux vidéo.
Dans la League of Legends.
Non, j'ai jamais joué à ça.
Juste pour donner une idée des tarifs, parce que justement, une compétition et le prix, le gain final, et si le prix est élevé, c'est que c'est... Aujourd'hui, Fortnite, par exemple, qui est un jeu aussi très très joué, la dernière compétition, le gagnant a eu 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, pour vous donner une idée, c'est plus qu'Orlando Garros, c'est plus que Wimbledon.
C'est ça.
Il n'y a que la Fed Cup au golf on gagne plus. C'est la c'est la deuxième compétition mondiale. Donc c'est pour vous dire les sponsors qui sont intéressés par ce genre de choses, l'attrait que ça peut avoir, parce que si on met un prix à la fin à 3 millions de dollars, bah, c'est qu'il y a du monde derrière.
Aujourd'hui, il y a des centres de formation de foot, il y a des centres de formation de joueurs de jeux vidéo.
Exactement, il y a des coachs, il y a des
toutes les grandes équipes de
sportifs.
Foot ont une équipe de joueurs de jeux vidéo.
Le PSG,
il y a le Real,
c'est le cas,
le PSG, toutes les grandes équipes.
De League of Legends. Et il n'y a pas que... Là, on a parlé de League of Legends parce que c'est le jeu le plus joué aujourd'hui. Mais il y a des compétitions de foot. On pense à FIFA, par exemple, qui est un jeu de foot très connu. Il y a Rocket League, il y a Dota. Il y a énormément de jeux. Et donc, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'on a toujours cette image du jeu vidéo avec l'ado boutonneux qui est derrière son ordinateur. Mais aujourd'hui, tout le monde joue. La moyenne d'âge d'un joueur, c'est 35 ans. Il faut savoir que Pac-Man, c'était dans les années 80 quand même. Ceux qui ont joué à Pac-Man dans les années 80, ils ont 50 ans aujourd'hui.
C'est nous.
Donc forcément, c'est pas que des jeunes boutonneux. J'ai même regardé un peu des chiffres. Aujourd'hui, on parle souvent de bien culturel le plus vendu.
Oui, on dit souvent que c'est FIFA. On dit que c'est FIFA le bien culturel
c'est-à-dire
le plus vendu au monde.
On parle des livres, on parle des films, etc. Mais c'est FIFA ou bien c'est Dota ou des jeux comme ça qui sont vendus à des millions d'exemplaires chaque année, ce qui est rarement le cas du jeu vidéo. Je vais donner un autre exemple aussi. Le film le plus rentable aujourd'hui, c'est Avatar. Connaissez Avatar.
D'accord. Oui, bah ça va quand même.
360 millions d'euros de budget, un gain de 2,3 milliards de dollars. Ouais. Je donne un jeu vidéo.
Pas mal déjà.
GTA 5.
Ah bah oui.
227 millions d'euros de budget.
Ce qui est énorme.
5
déjà.
Milliards de recettes. Donc les enjeux, les volumes, les sommes, et là ça va intéresser mon camarade Axel de Tarlet, sont colossaux du côté du jeu vidéo. Mais on dit souvent que le premier marché culturel, c'est le marché du vidéo. C'est pas tout à fait vrai. Ah. Ça reste le marché de l'édition. Ah, qui reste devant le marché du jeu vidéo pour une raison toute simple, c'est que l'essentiel des livres qui sont achetés, notamment en France, sont achetés par l'éducation nationale.
Ah d'accord.
Ah,
et
oui.
Donc on les compte également. Mais c'est le marché du livre, lui, est en baisse. Le marché du vidéo, lui, est en très forte croissance.
C'est normal, hein, c'est plus moderne. Hein. Les jeunes, ils préfèrent largement le jeu vidéo à un bouquin. Hein.
Oui. Je crois que notre camarade Axel de
Tarlet... Moi, j'ai ma question vache.
Il veut sa question vache. Celle de l'autre chroniqueur pour déstabiliser son rival, Axel de Tarlet.
Avec une question bien bébête qui, j'espère, va pouvoir vous piéger, mon cher Anissé, pour vous rabaisser un peu le caquet, parce qu'elle était brillante, cette chronique-là. Hein. Et j'ai peur de perdre, parce qu'en plus, j'ai l'impression que vous étiez passionné par les jeux vidéo. Alors moi, en matière de jeux vidéo, j'en suis resté à 1984 avec... Tetris. Je jouais dessus avec ma Game Boy. Oh merde, c'était ma question.
Ah mais non mais...
Comment ça
fait la console? Il s'est auto-pégé. Ouais, non, mais quand même, qui ne
sait pas que c'est. Alors, je pense que c'est 87 ou 8 les Game Boy.
Oui, déjà. C'était
un peu après.
Alors là, vous vous êtes vautré, mais dans les grandes largeurs, Axel, c'était un
très
bon
moment. C'était le nom de ma question.
Comment s'appelait la console Nintendo? Et oui, et tout le monde avait la réponse en plus. Vous l'avez donné.
J'ai quand même trouvé une citation intéressante pour faire un peu l'intelligent.
Ah oui, allez-y.
Tetris est considéré comme étant un excellent jeu parce que, je cite, une minute pour apprendre. Une vie entière pour le maîtriser.
Ouais. Petite citation.
Anissé, non, on n'a plus le temps. Alors là, c'est fini. Bon. Je suis obligé de vous rabaisser le caquet, comme vous avez dit tout à l'heure, parce qu'en plus, vous avez utilisé une expression qui n'existe pas. Rabattre le caquet. Merci, Anissé Mbida, pour cette belle chronique sur, non pas là, mais League of Legends. Coluche aurait eu 75 ans cette année. Son fils, le comédien Marius Colici, passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, après un week-end souvent marqué par les excès caloriques chez Belle Maman, ce soir vous aurez certainement à cœur de manger léger, comme Coluche qui mangeait souvent sur le pouce un petit encas en sortant de scène.
Un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage, et puis je veux aussi un rouge et grillé, et après je prends un poulet de Bresse à la française, et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord, et puis une tête de veau après. Voilà.
Comment bluffer vos proches pour le dîner sans casser votre tirelire? La réponse arrive dans Delice in Extremis.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures pour soulager nos zygomatiques sans pour autant débrancher tout à fait nos cerveaux. 2 heures également d'anecdotes savoureuses grâce à des invités malicieux, comme vendredi Philippe Gueluc qui a toujours le mot pour rire.
L'autre jour, j'ai vu Marcel Amont et il a combien, 90 ans, un truc comme ça. Et je lui dis, comment vous allez, toujours sympa, bon pied, bonnet. Je lui dis, comment ça va? Et je lui dis, comment vont tes parents?
Et puis, c'est bon, dis-moi, ils sont morts. Je pensais que ça allait le faire rire.
Aujourd'hui, alors que le froid vient de s'abattre sur la France, les amis, on avait envie de se réchauffer à l'humour d'un géant du rire qui nous manque. Il aurait eu 75 ans cette année. J'ai envie de dire, il aurait eu seulement 75 ans cette année. Moi, ça me fait bizarre. Vous, Marius, ça vous fait pas drôle de vous dire qu'il aurait eu 75 ans? Aujourd'hui, c'est jeune, 75 ans.
J'ai l'impression qu'on parle de Victor Hugo quand on dit Coluche à 75 ans. Quoi. Pour moi, c'est tellement loin, en fait. C'est un monde.
C'est un monde qui a disparu.
Mais oui, c'est comme si vous me disiez James Dean à 75 ans. raison. Ouais. Coluche, pour moi, c'est un personnage qui était jeune, quoi.
Et qui restera éternellement.
Bah oui, par la force des choses, oui.
À la question qu'on lui pose dans le livre, que souhaiteriez-vous laisser et qu'on dise de vous après votre mort, Coluche répond, moi personnellement, j'ai mis dans une enveloppe ce que je mettrais sur mon épitaphe en partant, c'est démerdez-vous. Et il expliquait, moi j'ai fait ce que j'ai pu, je vais faire ce que je peux pour faire marrer, je vais faire ce que je peux pour intéresser les gens, les surprendre, les amuser, je vais faire mon métier. À travers cette phrase, on sent une grande humilité chez votre père, un côté pas du tout star ou même pas artiste, mais plutôt artisan, genre je fais mon job, quoi. C'était quelqu'un d'humble ou c'était quelqu'un... Ah, il n'a jamais, par exemple, il a jamais pété. Il était tellement célèbre, enfin, à l'époque, en plus, des taux de notoriété monstrueux.
Non, puis c'était. C'est un gamin qui venait de Montrouge. Il était né plus ou moins dans la rue. Il n'avait pas jamais connu le fric. Il était surtout content d'avoir du blé et de s'éclater. Mmh. Mais forcément, il était consciencieux après pour bosser, hein, quand même, parce que c'est important. Mais. On sait à peu près qui on est. À un moment, on commence à dire qu'on est bon, mais pour avoir du génie, il faut être mort depuis au moins 20 ans. Donc voilà, là, il commence à avoir du génie maintenant, Coluche. Mais oui, non, il s'en foutait un petit peu de ces trucs-là. De toute manière, ça va, ça vient. Il a eu une notoriété qu'il n'aurait jamais soupçonnée, qui n'existait pas en France à cette époque-là. Donc je pense qu'il était bien, il était content, il était établi. Il n'allait pas se battre à dire « c'est moi le mieux ».
Vous parliez tout à l'heure du blé, vous disiez qu'il aimait bien en avoir pour... effectivement, il venait de rien, il en a eu beaucoup. Est-ce qu'il en a... Est-ce qu'il il vous en a laissé un peu ou est-ce qu'il a tout claqué? Parce qu'il avait l'air d'être...
Il ne payait pas les impôts, alors.
C'est un peu gênant, voilà. Alors.
Donc, on n'a pas tout eu. Hein.
Eva.
Eh ben on le connaît évidemment pour les Restos du Cœur. Il y a une exposition incroyable, on voulait vous la signaler. Les Enfoirés s'exposent, qui se tiendra du 28 novembre 2019, effectivement, donc au 29 décembre, au pavillon de la Villette, pour les 30 ans des Enfoirés, avec une véritable immersion dans les coulisses. Il y aura une vente aux enchères aussi en ligne au profit des Restos du Cœur. On vous redonnera toutes ces infos sur le site, évidemment, europe1.fr.
Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon, est disponible aux éditions du Cherche Midi. Marius Colucci est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, en cuisine, Coluche avait toujours une solution.
Et je vais t'arranger ça avec du beurre.
Bon, je ne sais pas si c'était vraiment dans le cadre d'une recette culinaire qu'il a dit ça, mais bon, lui aussi fait partie de ces gens qui pensent que le beurre peut nous sauver dans pas mal de situations. Olivier Pouls arrive pour Delice in Extremis, une recette de dernière minute qui combine excellence et mini-prix. Ce sera juste après M, grand petit con sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui poliche vos zygomatiques, frictionne votre cerveau et excite vos papilles. Le vecteur de cette excitation gustative, Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique belge, un estomac mais aussi un cœur, comme on a pu le découvrir vendredi lors de ses bouleversantes retrouvailles avec notre invité, son compatriote Philippe Geluck.
On s'est rencontré, j'avais 10 ans. Et, non, et tu étais venu faire dans mon école un atelier théâtre à Louvain-la-Neuve. Ah ben, je m'en souviens.
Bah, visiblement, la réciproque n'est pas vraie. Retrouvaille ô combien émouvante. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour les amis, bonjour Marius Colucci.
Aujourd'hui justement, Olivier, en hommage à Coluche et à ses Restos du Cœur, une recette de dernière minute goûteuse et extrêmement bon marché.
Bah oui, parce qu'il faut bien se dire que malheureusement encore aujourd'hui en France, alors que l'hiver arrive, le concept de délice in extremis est un peu trop lointain pour beaucoup de gens. Mmh. Alors je vais essayer de vous démontrer, même si tous les jours on essaie de faire attention pour vous proposer des recettes originales et pas trop chères, là on va vraiment, vraiment essayer de se surpasser, on va dire, et à moins de 8 euros pour 4 personnes.
Ah oui.
Je vais vous proposer un plat qui est en même temps goûteux, original, rassasiant, calorique, bref, il n'a que des avantages. Et je peux vous dire qu'il est digne de figurer à la carte de certains restaurants, et je pèse mes mots. Alors, on va travailler les lentilles. Les lentilles, c'est un produit fantastique qu'on a un petit peu tendance à oublier. C'est paré de plein de vertus, c'est plein de fer, c'est plein de magnésium, c'est très bon marché. Et donc l'idée, c'est de travailler des lentilles. Un paquet de lentilles, ça coûte autour de 2 euros. Et on va en faire une sorte de ragoût. Donc vous allez acheter également un petit peu de coulis de tomate, c'est tout à fait bon marché. Un oignon, une carotte, un tout petit peu de crème fraîche et il nous faudra juste un bouillon cube. Alors c'est parti pour cette recette de ragoût de lentilles, facile à réaliser et une fois encore, pas cher du tout. On va émincer l'oignon, émincer la carotte, les faire revenir dans un petit peu de matière grasse. On va rajouter les lentilles. Le coulis de tomate, on va mouiller avec un petit peu d'eau et on va rajouter le bouillon cube. Et on va laisser cuire ça pendant 25 minutes, le temps que les lentilles soient bien cuites et soient, on va dire, bien moelleuses. On va récupérer le bouillon de la cuisson, on va le faire réduire à feu vif pendant 5-10 minutes pour qu'il ait vraiment un goût bien corsé. On rajoute 2 belles cuillères de crème fraîche, on remet les lentilles dedans et on a un ragoût délicieux, je pense assez original et qui peut être vraiment bluffant. Une fois encore, moins de 8 euros pour 4 personnes.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Un vin à moins de 4 euros.
Alors, des vins à moins de 4 euros, on peut en trouver, évidemment. Et vous savez que même dans des régions comme Bordeaux, qui ont la réputation d'être des régions extrêmement chères, on peut trouver dans les appellations satellites des Bordeaux supérieurs, extrêmement bien faits à moins de 4 euros. Il faut fouiner un petit peu. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. 20 plus plat de lentilles, 4 personnes, moins de 10 euros avec une bouteille. C'est quand même franchement pas mal.
Bravo Olivier Pouls. Qu'est-ce qu'on dit, Eva? Eva, vous m'avez l'air emballée.
Mais oui, je laisse le vin pour une fois pour mettre un petit peu de salé, du petit salé dans les lentilles, c'est bon aussi.
Vous pouvez mettre du petit salé, vous pouvez mettre une saucisse, vous pouvez mettre quelques lardons, bien évidemment. Mais là,
pas de truffe, les lentilles... parce qu'Eva me fait signe.
Non, truffe, pas de truffe. Bien sûr que non, ça irait pas ensemble.
Merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Il est venu nous présenter Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon, en recueil des meilleures citations de son père, paru aux éditions du Cherche Midi. Dans quelques instants, Marius Colucci va faire le ménage dans la rédaction d'Europe 1 en désignant le meilleur chroniqueur du jour. Et par voie de conséquence...
J'ai déjà le pire.
Ah, vous avez déjà le pire. C'est chaque fois le dire. J'étais sûr que vous l'aviez déjà. À ce stade, après la chronique d'Anissé Mbida, je sens Axel de Tarlet très inquiet. Axel, pensez-vous être capable de battre Anissé à la loyale?
On le fait virer, sinon.
Non, non, ça c'est pas possible, Axel. Il faudrait que ce soit la loyale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Mesdames et messieurs, notre spécial Coluche touche à sa fin, nous y sommes. Afin de célébrer dignement l'armistice de 1918, les journalistes d'Europe 1 ont rejoué pour vous Verdun. Centre déchirant au service de votre culture G, un seul sortira de la bataille auréolé de la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour, magnifique couronne. Mais qui, lequel de mes poilus à moi l'emportera? Les paris sont ouverts.
Bah tiens, si vous voulez, je vous parie à vous que vous avez les couilles carrées.
Sacré Coluche. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
C'était hyper serré, mais c'est Axel qui remporte. Porte les deux points.
Oui, Axel, mais ils n'ont pas entendu la question vache d'Axel.
Je sais bien, mais...
Il y a mal donne. Axel, deux points. Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui à Nicolas Carreau. C'était une belle chronique qui m'a intéressé. Ça m'a donné envie de lire ces bouquins que vous avez cités. D'ailleurs, que vous me fournirez clé en main. Je ne vais quand même pas aller les acheter à la FNAC. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. C'était un honneur, justement. C'est bien écrit, ça. C'était un honneur de le recevoir ici dans le studio qui porte le nom de son père. Marius Colucci, le fils de Coluche, nous présentait « Rigolez pas, c'est avec votre pognon », un recueil des meilleures citations de Coluche. Hélas, mon cher Marius, vous l'avez compris, la belle ambiance qui régnait dans ce studio à l'époque de votre papa n'est plus de mise aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une société ubérisée où on note les livreurs de sushis et les chauffeurs de taxi, on note aussi les journalistes. Votre père aurait certainement mis zéro à tout le monde. Mais vous, Marius, qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Alors voilà, quand je suis arrivé dans le studio, on m'a donné une feuille avec une petite photo de tous les chroniqueurs et leur nom pour que justement, je comprenais pas, mais je viens de comprendre, voilà. C'est pour que je puisse en désigner un à la fin.
Exactement.
Axel de Tarlet vient de me dire attention, il y a un truc qui est tombé par terre. Évidemment, il n'y avait rien et il m'a remplacé la photo. Alors, je crois qu'on a des caméras maintenant. Désolé, pardon, mais balance, c'est mon signe astrologique. Alors voilà, il m'a filé un truc avec que Axel de Tarlet et sa photo partout pour que je sois obligé. Donc, lui, déjà, lui, c'est le pire du jour.
Voilà. Mais Axel, plus de temps à préparer ça qu'à préparer votre chronique la prochaine fois. Changez.
Attends, je suis prêt pour gagner. Mais les pires des procédés.
Là, ça n'est pas payant. Éliminé.
Je pense qu'il est, en train de pirater le vote du public sur Internet.
Certainement.
Bah non, sinon, voilà, moi je vote pour tout le monde, sinon.
Ah non, vous n'avez pas le droit.
Il faut trancher.
C'est au hasard, si vous voulez, mais il faut un vainqueur.
Eh ben, Anne, allez, Anne Le Gallois.
C'est Anne Le Gallois. Nicolas Carreau.
Cité dans les deux.
Nicolas Carreau est particulièrement écœuré parce qu'il sentait la victoire venir.
Oui, on avait une connexion sur Eric Chevillard.
Il n'a eu qu'un point, la connexion.
Elle était très bien, la chronique. Elle était mieux que celle d'Anne.
Mesdames et messieurs, c'est donc Anne Le Gallois qui remporte la 55e édition de l'équipe est sauvage. On remercie notre invité Marius Colucci.
Merci à vous.
Merci à vous. On rappelle le livre Rigolez pas. C'est avec votre pognon, compilation des meilleurs punchlines, dirait-on aujourd'hui, de Coluche. Merci également à mes journalistes Eva Roque, Anne Le Gall, Anissé Mbida, Nicolas Carreau, Axel de Tarlet. L'équipe est sauvage, revient demain 16h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.